Je m'appelle Nadia Zaghi-Rossi, je suis psychologue à la protection judiciaire de la jeunesse et j'ai l'honneur et le plaisir d'assurer la fonction de modérateur. Je vais donc introduire à cette table ronde qui va porter sur la thématique du sport et de l'enfance et des retentissements de la pratique sportive précoce sur le plan psychologique, sur le plan physiologique et aussi une analyse sociétale. Je crois que le professeur Hilaire, le professeur Toussaint, pardon, va nous proposer. Alors, j'ai le plaisir d'être ici aujourd'hui, je dois le dire, parce que en qualité de psychologue travaillant avec des mineurs sous main de justice qui sont qui pratiquent l'activité physique et sportive dès le plus jeune âge, j'ai eu la chance de travailler aux côtés du docteur Afflelou et du ministère de la Santé et du Sport et de la Jeunesse sur la question de la prévention des maltraitances dans le champ sportif et la prévention de toute forme de discrimination. Et j'avoue que j'ai découvert un domaine très complexe, très intéressant. Je vais pas occuper davantage l'espace de la parole. Je vais laisser les intervenants se présenter eux-mêmes parce que je pense qu'ils peuvent le faire mieux que moi. Et ensuite, j'essaierai de déployer tout mon art de modérateur pour pouvoir animer le débat et approfondir certains points des interventions. Voilà, je passe la parole à Madame Allaire.
Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Allaire. Je suis médecin du sport et médecin inspecteur de santé publique. Donc, j'exerce à la DRAS des Pays de la Loire. Et c'est plutôt, effectivement, je suis là plutôt aujourd'hui au regard de mon expérience de médecin du sport. Et je vais donc évoquer tout à l'heure l'enfant et les sports de combat, où commence l'inacceptable, en prenant le prisme de la boxe anglaise, qui est parmi les sports de combat celui que je connais le mieux.
Jean-François Toussaint, je suis donc directeur de l'IRMES, Institut de recherche médicale et d'épidémiologie du sport à l'INSEP. Et je suis également professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes. Je remercie Serge de son invitation pour vous présenter quelques données sur ce thème passionnant.
On va vous laisser la parole, Madame Hilaire. C'est à vous.
Merci. Donc, je vais demander le diaporama. Puis moi aussi, je voulais remercier les intervenants du CARPS et cette année, plus particulièrement, Madame Sarah Brissot-Jiménez qui a pris contact avec moi et m'a proposé de développer ce thème. Voilà. Alors j'aborderai cette présentation par une présentation justement des différentes formes de boxe anglaise, des valeurs éthiques qui sont transmises par ce sport et quelques données statistiques. Et puis on abordera le cœur du sujet où commence l'inacceptable à travers la gestion de ce poids qui est souvent un calvaire pour les boxeurs, dans la relation entraîneur-entraîné. Est-elle un lien de résilience ou bien un lien de dépendance dans le cadre de ce sport? Et enfin, à travers la gestion de la douleur, faut-il aimer la douleur pour faire de la boxe? La boxe reste malgré tout un sport confidentiel puisqu'on observe qu'elle a un faible nombre de licenciés, environ 20 000, et avec seulement 5 à 6 000 licenciés réellement pratiquants, soit en amateur, soit en professionnel. C'est bien sûr à des lustres d'autres fédérations qui regroupent de grands nombres de licenciés, comme des fédérations de football, de basket, de judo. Et malgré tout, c'est un sport très médiatisé. Le sexe ratio est bien sûr en faveur des hommes, puisque nous avons 5 garçons pour une fille en boxe éducative, 10 hommes pour une femme en boxe amateur, et en boxe professionnelle, seulement 10 professionnelles féminines pour 311 professionnels masculins. Il est toutefois à noter que l'ouverture de la boxe féminine en amateur s'est faite à la fin des années 90 et que l'ouverture donc à la boxe professionnelle pour les féminines simplement au début des années 2000. Donc il n'est pas forcément étonnant d'avoir encore un très faible nombre de pratiquantes professionnelles. Les valeurs de la boxe anglaise, donc si on va sur le site de la FFB, on les retrouve, c'est l'humilité, le fair play, la ténacité et la tolérance. La boxe éducative se pratique sous la forme d'assaut protégé. Les touches ne sont pas appuyées. Il n'y a pas de vainqueur à l'issue d'un assaut. Les assauts durent 3 reprises de 1 à 2 minutes et on peut commencer la pratique de cette activité dès l'âge de 7 ans. La boxe amateur, c'est le sport olympique. Elle se pratique donc en féminin comme en masculin. Elle demande un engagement physique plus important puisque les touches sont appuyées. Et c'est en fonction du nombre de touches validées par les juges qu'on va gagner un match. La durée des combats est de 3 reprises de 1 minute 30 ou 3 reprises de 2 minutes. Elle peut se commencer dès l'âge de 13 ans. Par contre, on est obligé de l'arrêter à l'âge de 36 ans. La boxe professionnelle, elle, est la partie de ce sport qui est la plus médiatisée. Excusez-moi. Elle est gérée par une ligue nationale professionnelle dont l'accession, à laquelle l'accession n'est possible que lorsqu'on a fait une carrière amateur qui est considérée comme réussie. Donc tout le monde ne peut pas, tout boxeur ne peut pas prétendre à passer professionnel. C'est incontestablement l'image la plus médiatisée de la boxe. Et je le disais tout à l'heure, si le faible nombre de licenciés n'explique pas cet engouement médiatique qui persiste à travers les années pour ce sport. Et à ce jeu, les féminines professionnelles tirent très bien leur épingle, puisque leurs combats sont souvent retransmis. Et quand les combats sont retransmis, évidemment, il y a plus d'argent derrière. Elles se pratiquent sans protection au niveau de la face, mais avec des coquilles ou des protections mammaires. Les combats, puisque maintenant on parle de combats, sont en 6 reprises de 2 minutes à minima et peuvent aller jusqu'à 12 reprises. Les gants aussi sont différents. Ils sont plus durs, avec une densité plus importante pour permettre des coups plus marqués. En effet, dans le combat, certes le comptage des points va prendre une place importante, mais on recherche surtout la victoire par KO, parce qu'elle permet une victoire nette, incontestable. Les combats sont mis aux enchères et les promoteurs les achètent. Et contrairement à ce que disait le docteur Simon ce matin, la prime au gagnant va parfois jusqu'à quelques millions, mais c'est très rare. La plupart du temps, c'est quelques milliers d'euros. Ce qui fait qu'en France, nous avons environ seulement 15 boxeurs professionnels sur 300 qui gagnent leur vie avec la boxe. Bien souvent, les boxeurs professionnels ont un autre travail à côté, féminine comme masculin. Alors, nous arrivons maintenant au cœur du sujet. Après avoir cette présentation brève, où commence l'inacceptable, et je l'aborderai aussi plus particulièrement chez l'enfant, et la gestion du poids me semble être un risque majeur d'aller vers cet inacceptable. Tout d'abord, qu'est-ce que le rituel de la pesée ? Vous voyez ici des photos de la pesée. Alors, il faut savoir que l'inscription à un tournoi se fait dans une catégorie de poids prédéfinie, que la balance officielle, elle pèse à 100 grammes près. Et donc, être au poids est déjà vécu par ces sportifs comme une première victoire. Et puis, c'est un des seuls sports, peut-être vous en connaissez d'autres, où la pesée est aussi médiatisée. Là, vous avez la photo de la pesée. Alors, la presse se déplace pour la pesée des boxeurs. En pro, elle s'effectue 24 à 48 heures avant et en amateur le jour même. Mais cette victoire sur le poids s'obtient souvent au détriment de l'hydratation. Et on sait effectivement que la déshydratation impacte la performance d'au moins 20% quand elle ne favorise pas l'apparition de pathologies comme des pathologies rénales. Alors pour être au poids, effectivement, on peut aller aussi en salle de muscu. Et du coup, les boxeurs les plus sérieux sont à environ 2 kg de leur poids de combat. Mais la plupart d'entre eux font quand même des régimes draconiens, donc avec une déshydratation volontaire et sévère dans les 2 derniers jours. Quand j'avais accompagné l'équipe de France junior, j'en avais un, je crois que c'était Alexis Vastine, qui refusait de boire dans les dernières 48 heures tellement il avait peur de ne pas être au poids. En effet, le risque de ne pas être au poids et donc d'être disqualifié avant même d'avoir combattu peut favoriser des conduites de ce type, mais aussi bien au-delà des conduites de pente. Certes, en boxe, on a souvent vu l'usage de la susette ou du sauna pour perdre du poids en dernière minute, ce qui correspond à une déshydratation importante en dernier recours et qui est vraiment pas conseillé. Mais on peut aussi imaginer d'autres substances qui favorisent cette perte de poids, comme les diurétiques. En tout cas, il apparaît évident que ce comportement aura un impact sur la croissance de l'enfant. Alors la question se pose, peut-on concilier la croissance et un poids stable, puisque les catégories de poids pour les benjamines, les minimes, vont de 3 kg en 3 kg. Et puis quand on va chez les cadets et les juniors, c'est le même écart, 3 kg entre les catégories, c'est simplement le curseur qui est placé un petit peu plus haut, entre moins 39 et moins 91. Cette pression sur le maintien du poids donné peut être importante chez les enfants et les adolescents. Pourquoi ? Parce que cela permet de continuer à évoluer dans une catégorie où ils sont performants. Et donc la stratégie sportive peut l'emporter très vite sur la physiologie de la croissance. Et pour moi, là, on se retrouve face à un risque inacceptable. Certes, les catégories de poids ont été créées dans les sports de combat pour assurer le maintien d'une certaine équité et d'une certaine sécurité. On peut imaginer que si on fait combattre un moins de 24 kg avec un plus de 85 kg, à l'impact des coups, on met en danger, ça je pense que tout le monde peut l'imaginer, celui de moins de 24 kg. C'est pas équitable et c'est pas sécurisant. Mais les catégories ne sont-elles pas un petit peu trop étroites pour imposer un maintien du poids alors qu'on a des enfants en pleine phase de croissance. Un autre point important, c'est la relation entraîneur-entraîné. Est-elle un lien de résilience ou bien un lien de dépendance dans ce sport ? Il existe, et c'est lié à la pratique du sport lui-même, une relation de dépendance physique chez le boxeur par rapport à son entraîneur. Enfin, le boxeur est... en général, hein, bien sûr, les boxeuses aussi. Le boxeur ne peut pas mettre ou retirer ses gants seul, il ne peut pas faire ses bandages de protection tout seul, c'est son professeur qui doit lui donner à boire avant le combat, pendant le combat. C'est son professeur qui lui met de la vaseline sur le visage avant et pendant le combat. Et cette dépendance physique en boxe, finalement, est-ce qu'elle est recherchée, acceptée ou imposée au boxeur ? Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'installe comme un principe indiscutable dès le plus jeune âge, comme un témoin des traditions pugilistiques, et personne ne discute ses prérogatives à l'entraîneur. Ça serait vraiment inacceptable. Ça revient à l'entraîneur. Et pourquoi ? Parce qu'elles font partie d'un rituel pré-combat. Et là, moi, je fais une grande similitude avec des athlètes équins de haut niveau que j'avais à gérer dans ma région ligérienne, avec les chevaux du concours complet de Saumur, qui ont aussi besoin qu'on leur mette les bandages, qu'on les fasse boire, qu'on leur mette les protections, et ensuite, in fine, qu'on leur mette la selle et le filet pour pratiquer la compétition, parce que c'est quand même eux qui sautent les obstacles ou qui font le dressage. Alors, vous tirerez les conclusions que vous voudrez de cette comparaison entre les chevaux de concours complet et les boxeurs. Cette dépendance physique à l'aide d'un tiers pose pour moi une question pour l'enfant, parce que cet enfant doit acquérir de l'autonomie. De fait, il va intégrer dès le début de sa pratique pugilistique qu'il ne sera jamais complètement autonome d'un tiers. Alors, est-ce qu'on est là face à une forme de compagnonnage ou bien plutôt face à l'instauration dès l'enfance et l'adolescence, dès le début de la pratique, d'un lien de dépendance ? Là, je partage la question avec vous. Enfin, à la dépendance physique vient se greffer un risque de dépendance psychologique vis-à-vis de l'encadrant. Celui-ci sera présent tout au long de la carrière du boxeur. Vous le voyez avec Mike Tyson, donc, qui avait été entraîné par un entraîneur qu'il a eu le malheur de perdre assez jeune, vers 19-20 ans. Et auquel il était attaché comme un père, et ça se retrouve très fréquemment. Avec une nuance près pour les féminines, parce que les féminines sont venues à l'anglaise souvent après la pratique d'un autre sport de compétition, et de fait, elles quittent plus facilement leur entraîneur. Mais chez les garçons, le boxeur ne quitte jamais ce professeur. Il lui associe de nouveaux collaborateurs au fur et à mesure de l'évolution de sa carrière, mais l'empreinte de ce professeur continue de porter. Et donc, pour moi, bien souvent, ce professeur de boxe, il représente la nouvelle image paternelle, voire la nouvelle image grand-paternelle du boxeur. Il y a une notion de construction familiale ou d'élargissement de sa famille avec un lien affectif très fort entre l'entraîneur et l'entraîné. Dans ce lien étroit qui dure depuis l'enfance ou l'adolescence, n'est-on pas face à un risque d'emprise psychologique ? Voire, comme on associe une relation de dépendance physique à une relation de dépendance psychologique, face à un risque de dérive sectaire ? Il faut savoir que pour les hommes, on vient à la boxe parce que c'est un ascenseur social, mais probablement aussi parce qu'il y a quelque chose de défaillant dans notre culture. S'agit-il de la défaillance des rituels ou de la défaillance de l'intégration ou des deux ? Alors pour l'enfant, qu'est-ce que ça donne ? Pour l'enfant, à cette dépendance, donc physique et psychique, s'associe une forme implicite de délégation de l'autorité parentale. Les parents sont les grands absents au bord des rings, et ça dès le début. Contrairement à d'autres sports où les parents sont omniprésents ou beaucoup trop présents au goût de l'entraîneur. Mais de par son caractère implicite, cette forme de délégation d'autorité parentale à un entraîneur, donc un tiers, certes qui investit affectivement comme un père ou un grand-père, peut s'avérer inacceptable. C'est son caractère implicite qui me gêne. Parce que un adulte, lui, il peut choisir. Mais pour un enfant, c'est déjà plus difficile de choisir. Il est plus dans le jeu. Et en plus, cette délégation d'autorité parentale conduit souvent à une médiatisation précoce et imposée. Ici, vous avez en bas un jeune champion qui s'appelle Pika Pika, qui est vénézuélien, que vous voyez à l'échauffement au pas d'ours ici. Et déjà, ces vidéos sont diffusées sur Internet à un âge aussi précoce. Alors, l'autre point aussi, c'est la gestion de la douleur, douleur physique, douleur psychique. Faut-il aimer les coups ? Faut-il aimer la douleur pour faire de la boxe ? Et là, je pense qu'il faut tenir compte de deux prérequis qui me semblent très importants à intégrer. Le premier, c'est la montée sur le ring. La montée sur le ring correspond en boxe à un moment initiatique. Elle intervient souvent après 2 ans d'un austère travail en salle où on fait de la préparation physique, où on apprend les enchaînements. C'est vraiment un sport en opposition à l'immédiateté de la pratique. 2 ans d'échauffement avant de monter sur un ring, c'est très long pour un jeune. Moi, je viens des sports collectifs, on touche très vite le ballon, on n'attend pas 2 ans avant d'aller faire un match. Et ça, c'est à prendre en compte. Un autre point aussi, c'est que les matchs sont rares, puisqu'on en fait un par tranche de 28 jours. Ça, c'est le règlement. On doit se reposer 28 jours après un match. Donc, cette montée sur le ring, pour moi, elle me semble finalement être une réponse aux défaillances de nos, une réponse potentielle, c'est à discuter aux défaillances de nos rites sociétaux. La symbolique du combat. À travers chaque combat se profile un autre combat. Et cette phrase, elle est issue d'un témoignage d'un boxeur professionnel qui a fait une carrière de champion amateur et puis qui est resté pendant 5 ans champion de France professionnel. Il voulait m'expliquer par là que dans le match, et puis dans le combat, on avait un adversaire virtuel qui n'était pas celui qui était sur le ring. En fait, il y a une transposition. Bien souvent, les garçons viennent à la boxe parce que l'image qu'ils ont de leur père n'est pas une image assez valorisée à leurs yeux. Il a démérité. Ou alors ils sont en conflit ouvert avec lui. Et le combat qu'ils livrent sur un ring, c'est souvent un combat virtuel contre leur propre père. Et je pense que c'est important de comprendre cette symbolique pour comprendre ensuite pourquoi on accepte de prendre des coups, bien que ce ne soit pas l'art pugilistique, l'art pugilistique étant de savoir bien se défendre, ne pas prendre de coups et en donner. Mais à partir de la boxe amateur, vous conviendrez avec moi qu'il est impossible de monter sur un ring sans prendre un seul coup. Chez les filles, c'est encore trop précoce, je sais pas si cette explication tient. En tout cas, est-ce que cette valeur de rite initiatique ou cette valeur symbolique qui est liée au combat permet aux boxeurs d'accepter les coups? C'est une question qui est posée. La peur des coups et la gestion de la douleur physique, mais la peur des coups existe en fait chez tous les boxeurs, même les boxeurs de longue date. Simplement, ceux qui en font depuis longtemps en souffrent moins. Le fait d'avoir expérimenté des coups violents ou l'image que l'on peut s'en faire sont les causes de cette peur, comme pour tout un chacun. Le coup donné par l'adversaire en boxe amateur puis en boxe pro entraîne à la fois une émotion, et là on revient vers la notion d'émotion désagréable, et une douleur. Et par peur de souffrir, on voit des boxeurs qui ont été surpris à fermer les yeux lorsqu'ils recevaient un coup de leur adversaire. Alors, cette peur doit-elle être totalement combattue? Non, parce que finalement, c'est un facteur de protection de l'individu. Quand on a un petit peu peur de recevoir des coups, on s'en protège. Et les professeurs, enfin les entraîneurs, utilisent justement cette peur pour améliorer les performances technico-tactiques en défense. Et puis, avec la pratique, on observe une élévation nette du seuil de la tolérance à la douleur. Et là, je reprendrai encore l'exemple de ce champion de France professionnel qui a fini son combat de 12 rounds, alors que depuis le deuxième round, il avait une double fracture de la mâchoire. Donc vous imaginez avoir une double fracture de la mâchoire et la douleur que vous pouvez ressentir quand vous recevez une droite ou même un crochet sur cette fracture, le siège des fractures. J'ai vu aussi au championnat du monde féminine une Turque qui a fini son combat alors qu'elle avait une fracture dès le premier round de la base d'un méta. Donc il y a forcément une élévation du seuil de tolérance à la douleur chez ces sportifs-là. À la douleur physique se rajoute la douleur psychique qui n'est certes pas une spécificité de la boxe mais qui vient majorer cette douleur physique et qui est aussi accentué dans cette discipline par le faible nombre de matchs ou de combats qui sont proposés. On ne peut pas se refaire le dimanche d'après. Il faut attendre 28 jours, parfois plusieurs mois, avant de refaire un combat. On n'est pas dans l'immédiateté. On ne peut pas dire « j'ai perdu, là, dimanche prochain, je vais gagner ». Alors, la différence entre la douleur psychique et la douleur physique, de mon point de vue, c'est que la douleur psychique, elle est partagée. Elle est partagée lors de la défaite avec les membres de la famille, avec les membres du club. Elle est plus collective. Alors, au regard de ces deux éléments, douleur physique, douleur psychique, où commence l'inacceptable? Eh bien, pour moi, c'est dès l'apparition de séquelles, la moindre séquelle physique ou psychique. Mais comment détecter ces séquelles chez un jeune adolescent, chez un jeune enfant? Si on a une surveillance qui s'est nettement améliorée, et je pense qu'elle est globalement bonne pour les sportifs de haut niveau, et les professionnels, mais tous les autres qui ne sont pas dans ces deux catégories. Donc c'est la nette majorité des autres. Qu'en est-il pour eux? Et chez l'enfant plus particulièrement, où commence l'inacceptable? L'enfant et l'adolescent vont intégrer la douleur comme une dimension intrinsèque et indissociable de la boxe. L'adulte, lui, peut faire ses choix, mais pour un jeune de 13 ans, on l'amène à intégrer que recevoir des coups, mais c'est inhérent à sa pratique pugilistique. Bien sûr, cette dimension de la douleur physique se retrouve dans de nombreux autres sports de combat, mais aussi dans d'autres sports de jugé, où l'enfant intègre dès le plus jeune âge qu'il ne peut pas réussir sans souffrir. Mais pour vous, où commence l'inacceptable là ? Alors malgré tout, je voulais quand même finir sur une note optimiste pour terminer mon propos. Et je voulais vous montrer que, mais malgré tout, sans savoir vraiment l'expliquer, ce sport reste souvent un facteur de résilience. Enfin, moi je suis pas psychologue, donc j'ai pas forcément tous les éléments pour expliquer pourquoi ce sport reste un facteur de résilience. Et vous avez, je voulais présenter Nadia Okmi, donc qui est une professionnelle, qui a fait une carrière amateur et qui est mère de famille, qui donc a arrêté sa carrière professionnelle temporairement, puis l'a reprise après la naissance de ses enfants. l'image du club, quand on, comme on en voit dans les autres sports, l'image du rêve pour l'enfant, qui là sert de patte d'ours pour un boxeur de l'équipe de France à l'échauffement. Je pense qu'il appuie pas ses coups. Et puis l'image de l'équipe cubaine. Les Cubains sont à la boxe ce que les Brésiliens sont au foot, avec un style, un savoir-faire. Ils ont longtemps largement dominé la boxe amateur. Il n'y a pas de boxe professionnelle parce que Fidel n'a jamais voulu qu'il y en ait. Donc leur carrière s'arrête après une carrière amateur. Mais c'est vraiment la référence en termes de style pugilistique et pour les boxeurs internationaux. Voilà, merci de votre attention.
Avant de laisser, je ne sais pas si l'auditoire a des questions, moi je voudrais réagir parce que j'étais particulièrement intéressée par un aspect de votre réflexion qui concerne la représentation du sport et notamment plus particulièrement de la boxe dans la société comme pouvant représenter un espace d'intégration sociale, un espace aussi de réussite professionnelle, d'insertion, un espace aussi de sublimation où on peut accéder à des rêves socialement valorisés. Et d'une certaine manière aussi cette question de la ritualisation. Vous semblez dire que dans cette société qui perd un certain nombre de ses rituels, et je pense plus particulièrement à la caricature du jeune garçon qui va faire la boxe, probablement que pour la jeune fille, il faudrait aussi un peu explorer un peu de cette image. Si tu as mal, c'est que tu es un homme, tu dois gérer la douleur, tu dois être dans cette humilité, dans ce fair play. En écho avec ce que vous avez repéré d'une défaillance du côté d'une identification à la figure paternelle, vous disiez que d'une certaine manière... Alors, ça se tient, ça va ensemble. C'est-à-dire, probablement que le sport peut à la fois être un facteur d'épanouissement, d'intégration, mais peut-être aussi être un lieu où se règlent des choses assez inconscientes. Moi, ça, j'ai trouvé ça intéressant comme réflexion. Parce que
Alors, effectivement, c'est une approche assez personnelle parce qu'il y a très peu de publications sur la boxe et quand il y en a, c'est plutôt sur les séquelles neurophysiologiques ou les séquelles neurologiques qu'elle engendre, voire parfois la traumatologie. Donc, ça aurait été plus facile pour moi de faire une présentation sur la traumatologie liée à la boxe en étayant mon propos par des articles, ce que je ne peux pas faire là. Effectivement, moi, c'est l'analyse que j'ai faite, donc de l'image paternelle, parce que j'étais toujours surprise de ce respect absolu du professeur, qui avait beau avoir 80 ans, il n'était jamais remis en question. Et je me suis dit, mais finalement, c'est qu'il doit correspondre à l'image valorisée du père. Et quand on étudie le parcours familial de ces boxeurs, on s'aperçoit que souvent le père est parti, ou le père battait ses enfants, ou le père battait sa femme. Et donc ça, les enfants le voyaient, ne l'acceptaient pas. Et il y a une forme de révolte. Donc mon interprétation, mais elle est personnelle et certainement critiquable, et que dans ce combat virtuel, et c'est ce que me disait aussi le boxeur professionnel, on se bat contre quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on accepte de prendre des coups et de vouloir en donner. Voilà, parce qu'on a cette notion-là. Par rapport à la fonction d'ascenseur social, quand on observe l'origine sociale des boxeurs masculins, ils sont souvent issus d'un milieu modeste. Chez les filles, c'est un petit peu différent. On vient à la boxe soit parce que ses frères y sont. Alors, forcément, on est issus du même milieu. C'est souvent un mimétisme familial. On envoie toute la famille à la salle. Et surtout les filles d'origine maghrébine, comme ça, on sait où elles sont. Elles sont avec leurs frères, elles s'entraînent à la salle de boxe et tout est clair pour tout le monde. Voilà. Et ça se retrouve souvent chez les jeunes femmes d'origine maghrébine de commencer les sports de combat parce qu'elles avaient des frères qui étaient dans ces sports de combat, judo et boxe, et donc qui les emmenaient avec elles. Et la famille délègue très bien le délègue peut-être l'autorité d'abord aux frères qui ensuite la délègue à l'entraîneur. Pour le reste, sur les interprétations psychologiques, je suis médecin du sport, j'ai pas de formation en psychologie particulière, donc je peux pas répondre nécessairement à tout, à toutes ces questions-là, mais votre propos me semble très bien cadré avec l'image que je me faisais.
Non, c'est une question que je me posais parce que je trouvais intéressant de soulever ce débat dans la société, de la place du sport et de la place de ce sport dans le développement psycho-affectif de l'enfant et de l'adolescent. Je trouve que vous avez ouvert des perspectives de réflexion, c'est déjà pas mal par rapport à ce que vous avez observé et analysé. Oui, et puis, la question de la délégation parentale aussi implicite, j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu parce que c'est un vrai souci qui peut avoir des effets dévastateurs dans l'histoire des...
Oui. Alors là aussi, c'est basé par rapport à l'observation. Dans d'autres sports, notamment les sports collectifs où j'ai vu en football, des parents hyper présents, donner des conseils en permanence à leur enfant, ça se voit aussi en basket, on volait, alors qu'il y a un entraîneur qui est là pour le faire. En boxe, les parents étaient totalement absents. Donc ça m'a interrogée. Et je pense, et puis quand j'ai vu aussi que c'est le professeur qui parfois achetait le matériel, il achetait les chaussures de boxe, il achetait le short, ça c'est fréquent. Alors il vous explique que les parents n'ont pas eu les moyens, donc il a donné un coup de main. Il trouve toujours une excuse pour ne pas dévaloriser vraiment les parents, mais implicitement il reprend là en achetant le matériel, en équipant le jeune, en lui passant la vaseline. C'est quand même un sport aussi où il y a un contact physique qui est indéniable. Quand vous mettez de la vaseline sur le visage d'un boxeur, vous d'une certaine façon vous le caressez, c'est avant de recevoir des coups, mais vous le faites boire, vous lui tirez le short pour qu'il respire, vous lui essuyer avec la serviette, et vous avez touché un contact tactile qui est très important dans la relation entraîneur-entraîné dans les sports pugilistiques. Après l'explication qu'on peut en donner, moi je n'ai pas la compétence toute seule de le faire. Je peux que mettre en exergue des points qui n'avaient pas forcément été décrits clairement, je pense, jusqu'à présent, toutes ces symboliques-là.
Oui, bonjour. Tout à fait, Cédric Martinez. Je suis professeur de sport à la direction régionale jeunesse et sport. J'occupe actuellement les fonctions de coordonnateur lutte et incivilité, mais auparavant, dans mes autres fonctions, j'étais adjoint de Dominique Nato, entraîneur national de boxe et aujourd'hui à DTN sur les Olympiades de 96 et 2000. Donc, j'ai écouté tous vos propos et j'en partage certains, d'autres beaucoup moins. Par contre, je tenais à apporter quelques compléments, notamment dans le suivi médical, où à un moment vous avez parlé des boxeurs professionnels, où il y a une batterie d'examens, etc. Et également dans le suivi des boxeurs en structure de haut niveau, c'est-à-dire à l'INSEP ou les pôles qui peuvent France qui peuvent exister ou Espoir. D'autre part, quand même, je tiens à rappeler que pour toute licence d'un boxeur amateur au niveau ophtalmologique, un fond de l'œil est demandé. Donc bon, ça c'est une première batterie. Ensuite, bon, il y a une visite médicale bien sûr autorisée. Et autre précision sur un KO, il y a automatiquement 28 jours d'arrêt. Suite à 2 KO répétés, on aura 3 mois. Et 3 KO répétés, 1 an d'arrêt. Ça c'est un autre point. Et à chaque rencontre ou chaque match de boxe, est obligatoire la présence d'un médecin au pied du ring qui à tout moment peut lui arrêter le combat si le juge trop dangereux pour un des deux boxeurs, et derrière il est libre à lui d'imposer un certain nombre de jours d'arrêt, et également il est libre à lui d'imposer une certaine batterie d'examens médicaux pour avoir des certitudes plus approfondies sur les dégâts occasionnés, si je peux appeler ainsi, dus au combat.
C'est tout à fait vrai, c'est un rôle que j'ai longtemps tenu, simplement c'est pas si évident que ça quand vous avez que l'examen neurologique pour décider de ce que vous allez faire chez un boxeur. J'ai dit que les boxeurs professionnels étaient très bien suivis aussi, effectivement ils ont à passer une IRM en plus cérébrale eux chaque année, et effectivement on demande très facilement en boxe professionnelle des IRM. Donc là-dessus, je pense que c'est vraiment, par rapport au judo, par exemple, je me permets la comparaison, un suivi drastique. La règle des 28 jours, elle s'applique partout, sauf dans les tournois. Vous savez qu'à partir d'un certain niveau, on va beaucoup en tournoi, et que si on appliquait la règle des 28 jours, les tournois, on ferait un tournoi par an qui durait 6 mois. Donc, il y a certaines limites aussi, il y a certains biais. Je n'ai jamais... ce propos, c'était aussi où trouver l'inacceptable. J'ai choisi de prendre la boxe plutôt qu'un autre sport. Mais ce que j'ai décrit en boxe anglaise se retrouve dans bien d'autres sports. Hein. Je suis d'accord. J'ai dit que je trouvais que le suivi des boxeurs professionnels et de haut niveau était bon. Pour moi, l'examen ophtalmo, c'est certes important, mais c'est un petit peu léger. Et je pense qu'on ne perçoit pas toujours les séquelles en tant qu'entraîneur qu'un jeune peut avoir à l'issue d'un combat perdu ou gagné. Alors, c'est très progressif. Hein. J'ai aussi montré qu'il y avait l'assaut, que le nombre de licenciés le plus important était en assaut. Donc il y a des gens qui ne passeront jamais amateurs, qui vont toujours faire des touches non appuyées, hein, qui choisissent ce sport-là ou la boxe loisir. Je rejoins ce que vous dites est vrai, mais je vois pas en quoi ça limite mon propos, quoi. Oui, c'est un complément tout à fait juste.
Je voulais réagir à cette intervention et remercier Frédéric pour toujours le naturel et la simplicité de la présentation. Je suis ravi de cette présentation après la matinée de débat qu'on a eue, parce qu'il pose vraiment de manière extrêmement claire et concrète certains des concepts qu'on a développés ce matin. Et sans juger, il n'y a pas de jugement, mais voilà un tableau simple de... sinon l'ambiguïté, la complexité de nos rapports à la violence. Je le disais ce matin de manière provocatrice et je ne savais pas que tu allais développer si bien le propos. Mais voilà un cadre dans lequel les coups portés, reçus, sont tout à fait acceptés, valorisés, magnifiés. Tu as parlé de résilience, donc avec même un cadre général qui porte des valeurs positives pour construire une identité, alors sur des ressorts psychologiques que tu as survolés. Je suis d'accord avec toi, bon, l'analyse des ressorts, finalement, peu importe, mais... L'idée, c'est qu'on est devant une micro-société qui s'est organisée et qui, petit à petit, par ses propres codes, ses propres valeurs, construit des hommes sur des choses qui sont tout à fait condamnables et répréhensibles ailleurs. Et tu parles de la boxe, je pourrais parler aussi pendant de longues minutes du rugby, où la violence est intrinsèque à ce jeu, où on se bat aussi beaucoup et où c'est extrêmement valorisé, et tu es un bon joueur de rugby si tu sais te battre, si tu sais donner des coups, si tu sais en recevoir, etc. etc., etc. Et c'est beaucoup plus hypocrite d'ailleurs, puisque on dit que c'est interdit, et à la fois c'est extrêmement recherché, dans la boxe c'est relativement clair. Et ton exposé pose bien le sinon le problème, en tout cas la question de ce séminaire, c'est-à-dire ta question jusqu'où commence l'inacceptable dans un cadre qui, si on le décontextualise, si on détruit le cadre, est inacceptable en soi. Des hommes qui se frappent et former des jeunes enfants à se frapper, ma foi, si on le présente comme ça, c'est complètement idiot. C'est comme courir après un ballon ovale à 15 contre 15. Comme disait mon grand-père, achetez-vous un ballon chacun, ce sera beaucoup plus simple. C'est complètement idiot. Évidemment, si on détache du sens, c'est complètement idiot. Mais évidemment, ce n'est pas idiot. Et c'est toute la thématique de ces journées. Certes, il y a des référents universels, mais il y a, comme disait le professeur Parquet, des mises en scène particulières qu'il faut aborder avec subtilité. Et alors, question provocatrice, mais est-ce que tu as déjà vu un signalement à un procureur de la République fait par un adulte à propos d'un enfant qui serait considéré comme maltraité dans l'univers de la boxe ?
Non, à ma connaissance, moi, j'ai pas vu de signalement, mais ça aurait pu tout à fait m'échapper, hein, puisqu'on n'est pas non plus dans les salles de boxe pour en permanence. Il y en a de nombreuses. Surtout que moi, j'étais médecin élu en Île-de-France, donc c'était la plus grosse ligue. Je pouvais pas. Ça aurait très bien pu m'échapper. Ceci dit, ce qui me rassurait, c'est que je trouvais que finalement. Ces hommes-là et ces femmes-là, on en faisait des bons pères de famille, très paradoxalement. C'était la résilience. C'est pour ça que j'ai parlé de résilience, parce qu'on en faisait des bons pères de famille avec des valeurs familiales fortes, un respect d'un certain nombre de valeurs sociétales qui leur avaient probablement manqué, qui s'étaient pas acquis d'avance pour ceux qui y venaient. Et dans un sport extrêmement paradoxal où effectivement il s'agit d'échanger des coups, alors plus ou moins appuyés, plus ou moins mis en scène, avec souvent en boxe professionnelle, alors là une mise en scène extrêmement importante puisque vous avez la pesée en slip, après on vient en peignoir, il y a la musique qui va avec, vous avez les pin-up qui passent pour annoncer les rings et que ça le round, de quel round. Donc la mise en scène est réglée au millimètre près en boxe professionnelle. Avec des combats achetés aussi, hein. Parfois ça s'apparente au catch. Il faut dire ce qui est. Mais il y a des vrais combats, tout est réglé, les règles sont très strictes, aussi bien sur le ring qu'avant. Et tous ces temps d'attente qui rythment les quelques combats qu'un boxeur va mener finalement tout au long de sa carrière.
Oui, on va voir aussi là toute l'immense difficulté pour réellement poser la question acceptable, inacceptable. Vous le dites bien, si on commence à mettre un seuil sur les séquelles, et à ce moment-là, la maladie de Parkinson, à ce moment-là, ce qu'on va découvrir plus tard, et c'est valable pour l'ensemble des sports de haut niveau, puisque c'est petit à petit ce vers quoi on va se pencher et qui va se révéler plus tard, qu'est-ce qui fait que, secondairement, on doit être amené, alors que, puisque ce sport existe, puisqu'il est médiatisé, il est accepté. Il est totalement accepté sur le plan de la société.
Oui, je crois qu'effectivement, avec les barrières, même si on fait des IRM après chaque combat, et je me souviens de certains boxeurs pro qui les faisaient eux-mêmes, hein, qui allaient de fait faire une IRM après, parce que finalement, ça les rassurait. Il y avait le rituel de l'IRM, ça devenait le rituel d'après-combat, une IRM cérébrale, bien sûr, hein, mais on détectera pas, à ma connaissance... peut-être maintenant, mais à l'époque on le détectait pas. Il y a quand même eu une évolution. On a peu de professionnels. Les professionnels font relativement peu de combats par an en France parce que le marché n'est pas très porteur aussi. Mais finalement, c'est une bonne chose. Et j'ai exprimé qu'avant d'arriver au stade professionnel, il fallait avoir montré ses compétences pugilistiques en amateur. Et ça, c'est un des sports où j'ai vu des gens se faire disqualifier, vous me démentirez peut-être, mais moi je l'ai vu chez les juniors, à Sarajevo, des jeunes se faire disqualifier en championnat du monde pour insuffisance technique. Vous imaginez, vous arrivez au championnat du monde, vous représentez votre pays, un drapeau plus ou moins lourd à porter, et là le juge vous dit, vous descendez du ring, vous êtes insuffisamment bon techniquement. Ça peut se comprendre à un niveau régional, quand vous arrivez sur une compétition internationale et on vous disqualifie pour insuffisance technique, vous imaginez le ressenti du boxeur et de son professeur de boxe en descendant du ring. Donc finalement, ce que je veux dire par là, c'est que la technicité qui est nécessaire à des boxeurs professionnels les protège de recevoir des coups. Peut-être un peu mieux qu'avant, donc peut-être parce qu'il y a moins de pratiquants, on le verra moins, et peut-être aussi parce qu'on a instauré de l'imagerie cérébrale. Mais je pense en effet que ça serait important de surveiller la pathologie à long terme. Avec ces deux facteurs-là, les boxeurs professionnels font beaucoup moins de combats professionnels qu'auparavant. Ça, c'est, je pense, inéluctable par rapport aux années 50 et 60 où ils les enchaînaient, sans en plus avoir tous ces contrôles qui leur permettaient de dire « Attention, là, t'as besoin de récupérer un peu plus longtemps ». Et il y a eu un grand nombre de règles qui ont été instaurées pour les professionnels, pour les protéger, mais peut-être que ça ne suffira pas. Je pense que c'est intéressant de continuer à suivre chez eux comme chez les autres, parce qu'on a aussi souvent stigmatisé le devenir du boxeur professionnel au détriment d'autres sports. Mais moi, je veux bien une comparaison interdisciplinaire avec des rugbyman, des basketteurs qui ont mal au dos, les rugbyman qui ont leur arthrose cervicale quand ils sont à l'avant, et les séquelles qu'engendrent tous ces sports.
Deux remarques. La première en écho à ce que vient de dire M. Toussaint. Inacceptable par rapport à quoi? C'est-à-dire que nous avons construit progressivement, par rapport à la santé, la transformation de la santé comme une valeur. Et une entreprise qui abîme la santé devient une entreprise critiquable. Et pour essayer de se débrouiller avec cela, eh bien, on a fait l'inspection du travail, on a fait toutes les protections, etc. Là. Du coup, on en arrive à la même chose dans les activités de loisirs et dans les activités de nutrition et dans les activités sportives. Donc c'est notre culture qui fait que la référence santé, c'est pas une valeur, c'est la référence santé devient prégnante. Et c'est acceptable par rapport à la santé, que ce soit en santé physique, psychologique ou sociale. Je crois que c'est important. Le deuxième point, ce que vous nous avez montré, c'est que là, il y a une tentative de maîtrise. C'est-à-dire par rapport à un comportement qui est la conduite agressive, de base, comment va-t-on donner de la civilisation à cette pratique très basse? Et c'est ce qui fait que souvent, dans les quartiers les plus difficiles, quand on demande à ce que les jeunes aillent en salle quand ils sont en difficulté, potentiellement en difficulté, c'est parce qu'on est dans une dimension de la civilisation des conduites et du comportement. Et ce que vous nous avez montré avec les 28 jours, avec ceci et cela, avec les catégories, etc., c'est un effort de civilisation. C'est exactement comme on dit habituellement que les sourds sont méchants, parce qu'ils manifestent dans le corps, alors que nous pouvons avoir des agressions verbales infiniment plus dangereuses, mais ça ne touche pas la viande, donc c'est une civilisation de l'agressivité. Et je crois que c'est ça que vous nous mettez en évidence à propos du pugilat, c'est la maîtrise d'une conduite et d'un comportement qui est corollaire d'une civilisation. Et puisque c'est la civilisation qui est au centre, la civilisation de la santé est maintenant un des critères très importants qui a révolutionné complètement notre organisation.
Oui, tout à fait. Implicitement, effectivement, je mettais la santé aussi en tant que médecin de santé publique comme une valeur capitale. Et le capital santé, le capital de vie, des années de vie en bonne santé, hein, des années. Donc, est-ce qu'on peut perdre par rapport à ce capital? Ça, c'est indéniable. Et puis, pour illustrer l'autre partie de votre propos, mais effectivement, c'est cette civilisation, elle se traduit au bord des rings. Et vous entendrez les boxeurs dire à ceux qui sont sur le ring, te bats pas, ils leur disent. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est-à-dire, ne fais pas du combat de rue, fais tes enchaînements. Ils vont dire, travaille-le, te bats pas. Mais le te bats pas aussi, ça m'avait impressionné. Dire à un boxeur qui est sur le ring, te bats pas, c'est là tout cet élément de la civilisation. C'est-à-dire, tu quittes le combat de la rue pour arriver sur le ring où tu vas démontrer un style, en plus le meilleur styliste souvent le récompense, et justement tu montres ton savoir, tes enchaînements, et tu ne te bats pas sur le ring, tu fais de la boxe.
J'y vois beaucoup de subtilité aussi, hein. Je sais pas, quelqu'un a parlé tout à l'heure d'un environnement subtil, c'est quand même assez subtil ce te bats pas, avec en effet cette pulsion agressive qui est éduquée. Qui est éduqué par tous ces rituels et par tous ces messages et ces règles de civilisation. On va maintenant laisser la parole au professeur Toussaint, qui va poursuivre la réflexion sur la ligne de partage entre l'acceptable et l'inacceptable. Je vous en prie. Et merci, merci beaucoup, Madame Miller.
Bien, bonjour à tous. Donc, je voudrais revoir avec vous un certain nombre des engagements qui emmènent les sportifs de haut niveau, et en particulier les jeunes sportifs de haut niveau, vers leur quête, leurs rêves, et ceux qui vont petit à petit les accompagner, les entraîner. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet entretien que Jacques Brel avait donné, dans lequel il résumait l'ensemble de sa poésie et l'ensemble de ses engagements personnels, de ses étonnements et de la façon dont il souhaitait lui les réaliser et dont il se sentait mourir petit à petit de la perte de ses rêves. Dans la pyramide de ses forces qui nous emmènent, Maslow a bien montré l'élévation progressive des conditions essentielles de survie, l'oxygène, les nutriments pour les besoins physiologiques, essentiels dans un grand nombre de pays encore actuellement, les besoins de protection, de sécurité, d'appartenance et d'affection. Le besoin de reconnaissance est celui du dépassement qui coiffe un petit peu l'ensemble, qui est celui de notre quête dans le cadre du sport de haut niveau. Alors, mal ou bien traitance, la question qui a été longuement posée depuis ce matin revient à se poser la question finalement, qu'est-ce qui nous pousse sur ce rêve à accomplir ce besoin de devenir, de passer en haut de la pyramide, de devenir le champion de référence absolue, champion du monde, champion olympique, ou le recordman du monde imbattu. Et derrière ça, il y a une vision de l'enfance qui est en grand changement actuellement, que l'ONU, aux 20 ans de cette convention relative aux droits de l'enfant, publie actuellement, puisqu'on en est à cet événement anniversaire d'une centaine de millions d'enfants qui sont en perte de racines, d'enfants à la rue, en Europe également, hein, 18 millions en condition d'extrême pauvreté, 4 millions d'enfants abandonnés en Russie, sans parler des enfants soldats, des enfants des maras et des problèmes de surmasculinité en Inde comme en Chine, qui vont créer des conditions très perturbantes pour l'ensemble des enfants des générations actuelles et des générations à venir, et surtout parce que cette sensation qui est perçue actuellement par un certain nombre d'organisations non gouvernementales montre que l'enfant est de moins en moins perçu comme une richesse et de plus en plus comme une charge. Ce qui pose une vraie question sur l'ensemble des valeurs qui nous portent actuellement et de leur possibilité de résilience sur les générations à venir. Un certain nombre de murs s'élèvent, et pas seulement physiques, entre les pays. Un certain nombre de questions se posent sur les valeurs qui seront attachées au monde à venir. Et ce malaise est perceptible sur les enquêtes qui sont menées, enquête baromètre santé, agit par l'INSEP, par l'INPES, pardon, également chez les étudiants dans la plupart des régions de France. Et on retrouve ces critères-là dans un grand nombre de pays européens. Et ce que l'on voit, c'est que la proportion de personnes en souffrance psychique, en France ici réalisée par l'UNPS, qui monte à peu près une vingtaine de pourcents de personnes en France, selon ces critères-là, vont être extrêmement corrélées avec le degré de vulnérabilité sociale entre ceux qui vont être dans une très grande insertion, avec une très faible souffrance psychique, et ceux qui, au contraire, vont être en grande instabilité sociale, et en particulier jusqu'à ceux qui sont en demande d'aide, donc ceux qui viennent petit à petit jusqu'aux organisations, jusqu'au Resto du Cœur et l'ensemble de ces structures d'aide vont montrer des souffrances majeures qui vont se traduire en particulier sur l'impact sur les taux de suicide et donc sur l'impact psychologique majeur mesuré par cet acte ultime. Le taux de suicide ici, je vous le rappelle très brièvement sur l'évolution avec l'âge dans la vie, avec un taux qui passe de quelques pour 100 000 sur l'adolescence jusqu'à un taux supérieur à 1 pour 1000, c'est-à-dire au-delà de 100 pour 100 000 chez l'homme au-delà de 80 ans. Et donc cette progression avec l'âge du désintérêt de la vie. L'évolution maintenant, si on la regarde sur le 19e et le 20e siècle en France, vous montre deux grandes tendances. Une première avec l'élévation au cours du 19e siècle, au cours du développement, une diminution progressive, impact de la récession économique des années 30, puis une stabilisation et une réaugmentation importante au cours des deux chocs pétroliers. Les deux étant, enfin l'ensemble de ce cycle étant rythmé par les deux guerres mondiales et puis la guerre de 70 de façon un petit peu moindre avec des pertes importantes, enfin des diminutions plutôt importantes de ce taux. Mais il s'accompagne également d'un changement majeur sur la représentation en classe d'âge et en particulier, et cela est valable sur l'ensemble des pays européens comme c'est le cas ici en Grande-Bretagne, une diminution par 4 du taux de suicide chez les personnes les plus âgées et une augmentation dans le même temps du taux de suicide chez les plus jeunes. Alors comme proportionnellement les plus jeunes, vous l'avez vu, sont beaucoup moins importants, on constate une diminution globale, mais avec une augmentation chez les jeunes qui est très significative et que l'on constate également aux Pays-Bas. Vous avez cette inversion, ce pivotement de la courbe entre les plus jeunes à gauche, entre les années 50 et les années 2000 qui augmente, et les plus âgés à droite qui vont avoir au contraire une diminution. C'est également valable sur les constatations qui ont été faites aux États-Unis, avec cette augmentation du taux de suicide chez les plus jeunes et une diminution chez les plus âgés. Donc un malaise qui est important, comme si l'ensemble des générations commençait à prendre, concevoir un petit peu ce que notre grand barde canadien avait si joliment chanté de « cela semble arriver et ça semble arriver assez vite ». Alors là, dans le sport de haut niveau, et en particulier chez les jeunes, je vais le prendre à contre-pied total de ce qu'on a pris jusqu'à présent. Est-ce que ce ne serait pas un facteur de protection ? Pour cela, le registre de l'ensemble des bilans psychologiques qui sont passés suite à la loi de 2006 sur les sportifs de haut niveau français a été collecté grâce à votre travail à tous, en particulier grâce à l'équipe du CAPS ici également. Et elle est reprise dans une publication qui va venir cette année et qui montre ici les taux relatifs par rapport aux comportements passés et aux problèmes actuels en ce qui concerne les grands sujets, troubles psychotiques extrêmement faibles, troubles anxieux aux alentours de 7%, troubles dépressifs 6 et 2% actuels, épisodes dépressifs majeurs 2% et 0,7% précisément actuellement, par rapport à ce que sont les données de la littérature sur les grandes enquêtes françaises, 8%. Pour les épisodes dépressifs mineurs, 5% pour les épisodes dépressifs majeurs. On voit que là, on est sur des taux qui sont inférieurs à ceux de la population générale. Et le principal actuellement, mais qu'on retrouve là de façon tout à fait constante, à la fois chez les jeunes comme sur l'ensemble de la population, celle des troubles du sommeil, actuellement de mieux en mieux ciblée. En regardant sur les tranches d'âge, quatre paramètres seulement ont montré des évolutions significatives, et c'est en particulier celui qui porte sur la dépression sévère, dans lequel les plus jeunes sont effectivement moins atteints, les plus âgés voient le dos quasiment décuplé par rapport aux moins de 18 ans, mais revient très précisément à ce que l'on voyait sur la courbe initiale du taux de suicide, et donc sur l'évolution progressive avec l'âge de la dépression et de ce taux qui n'est finalement donc pas différent chez les sportifs de haut niveau. Le harcèlement verbal est à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a chez les sujets les plus jeunes, chez les espoirs, contrairement aux seniors, à l'élite, un taux d'agressivité verbale supérieur, comme on le retrouve là encore chez les enfants par rapport aux adolescents et par rapport aux adultes. Et puis, les consommations voient un taux d'utilisation du cannabis comme un taux d'augmentation de l'alcool quotidien, hein, c'est-à-dire ceux qui boivent un verre par jour, qui augmente au moment de la majorité. Donc là encore, des taux qui, par rapport à ce qui est maintenant publié dans les consommations françaises, sont, en tout cas pour le cannabis, inférieurs, pour l'alcool, très légèrement inférieurs. L'ensemble de ce point de vue montre que le sport de haut niveau, dans ses conséquences et dans son évolution générale, n'est pas du tout le résultat d'une évolution, au sens darwinien du terme, bien entendu, mais beaucoup plus sur une sélection physiologique et petit à petit sur un clustering génétique. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends qu'un certain nombre de données maintenant nous amènent à concevoir ce que sont un certain nombre des déterminants génétiques qui sont la base du vivant depuis à peu près 3,5 milliards d'années, et qui montrent en particulier sur cette étude de Catherine North, qui en a fait maintenant même un certain nombre de modèles animaux, que les taux de alpha-actinine et le génotype de l'alpha-actinine chez les sprinteurs olympiques est en proportion strictement inverse par rapport au taux d'alpha-actinine sur un génotype XX chez les marathoniens. Donc on voit que Usain Bolt aura probablement quelques difficultés à venir battre le record du monde de Gebrselassie, que l'inverse est également vrai. Les données intuitives que nous avions depuis une centaine d'années n'allaient pas dans un autre sens, fort heureusement. Pour la partie du développement de la masse musculaire et de la puissance musculaire, on a vu et on constate là depuis une cinquantaine d'années l'augmentation majeure de la taille des sportifs dans à peu près tous les domaines. Et là encore, Usain Bolt n'est que le successeur d'une longue évolution dans laquelle le groupe des coureurs depuis les années 40 où Jesse Owens faisait 1m78 jusqu'à ceux des années 90 a vu progressivement les gabarits très largement augmenter à proportion d'une recherche de ces gabarits dans la plupart des sports, le rugby en est un autre des exemples, et petit à petit une recherche sur la puissance musculaire adossée avec l'augmentation des charges d'entraînement. Et ces charges d'entraînement-là, elles sont essentiellement dans la deuxième moitié du XXe siècle, donc après la guerre, sur lequel ces taux vont exploser dans la plupart des sports olympiques. Alors, qui donne actuellement le rythme de cette évolution ? On voit sur des changements récents, en particulier sur l'apparition dans les tablettes des records du monde de la Chine, des évolutions très parallèles avec celles du développement économique. Andrea Fepuco en ont publié un certain nombre de données et Pricewaterhouse avait également, juste avant Pékin, montré ce lien entre le développement économique des pays et leur présence en termes de médailles. Si on regarde sur l'ensemble de l'évolution en championnat du monde des gymnastes, on voit que la taille, 1m60 à 1m45, le poids, 48 à 40 kg, et l'âge, 22 à 16 ans, fait un recrutement désormais de plus en plus jeune, moins 6 ans, par rapport à l'ensemble des participantes de cette discipline. Donc on a, de fait, pour la gymnastique, un recrutement et une demande qui vient sur un âge de plus en plus jeune. Ce n'est pas le cas pour la natation, dans lequel, au contraire, depuis 30 ans, on a vu, et en particulier à la fin des années 80, lorsque les pays de l'Est ont petit à petit et progressivement disparu après la chute du mur, réaugmenté l'âge moyen des 10 meilleurs performeurs sur l'ensemble des courses de natation, donc sur la nage libre, dos, brasse, papillon, sur les quatre nages. On a pour l'ensemble de ces sportifs, chez les hommes comme chez les femmes, une réaugmentation d'environ 4 ans sur l'ensemble de ces courses. A l'inverse, le recrutement, et on le voit de plus en plus jeune, sur le marathon, avec l'émergence des jeunes Éthiopiens et des jeunes Kenyans, sur les courses de fond, de la façon suivies de façon identique, et dans le football, vous le signalez jusqu'à présent, avec des recrutements dans les clubs européens de jeunes athlètes africains qui, par rapport à ces trois disciplines, sont le point commun de la quête actuelle de talents sur un certain nombre de ces sports de haut niveau. Alors la question qu'on peut se poser derrière, c'est est-ce qu'il existe finalement, par rapport à cette demande, un risque particulier qui serait celui d'une résistance particulière à ces contraintes, et est-ce que notre organisme est capable de résister aux contraintes du haut niveau pendant un certain temps? Est-ce que ce temps est inscrit ou est-ce qu'on peut avoir des prolongations de carrière au-delà de l'apparition de ces premiers symptômes? Si on regarde par contre à nouveau par le biais de la performance, et au niveau du tennis notamment, on se rend compte qu'il existe ici, pour avoir repris l'ensemble des matchs de tous les numéros 1 mondiaux depuis 1969 maintenant, c'était à l'époque 79, on l'a repris depuis le début du classement ATP, on retrouve un lien entre le nombre de matchs réalisés chaque année et le taux de victoire, donc le pourcentage de victoire par rapport à son nombre de matchs. Et on voit le record ici de John McEnroe en 83, 71 victoires sur 73 matchs disputés dans cette saison. Le record du nombre de matchs disputés étant détenu, je crois, par Villas aux alentours de 130 matchs dans l'année, donc on est vraiment à un match tous les 3 jours quasiment, à des rythmes qui ne sont plus actuellement ceux des numéros 1 mondiaux. Mais néanmoins, on voit que, comme pour la production scientifique, eh bien, pour arriver au top niveau, il faut quand même se donner une quantité minimale pour arriver à un moment donné à établir ces records-là. Vous avez au-delà la progression de ce pourcentage de victoire sur, une fois de plus, uniquement les numéros 1 mondiaux, depuis 69 donc, au classement ATP, et vous voyez que ce classement, petit à petit, va croître jusqu'à à peu près 23 ans, et puis décroître progressivement jusqu'à 40, et c'est entre 20 et 25 ans que ce taux de victoire annuel est le plus important. Alors dans le besoin de dépassement, on vit toujours sur des mythes. Et Lionel Nakache, qui est un de nos grands neurophysiologistes actuellement, montre bien comment on a besoin de ces fictions pour construire ce monde. Quand on regarde le nombre de records battus par rapport au nombre de disciplines officiellement olympiques chaque année, ce record ne cesse de descendre, de décroître depuis environ 40 ans. Le nombre de records mondiaux par rapport aux asymptotes auxquels ils peuvent prétendre se trouve limité par deux événements principaux, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et l'ensemble réuni sur une seule courbe revient à une seule asymptote sur laquelle nous sommes en train d'arriver aux alentours de 99%, en dehors ici de l'apparition en 98 de l'haltérophilie féminine, dont on a vu l'un des principaux acteurs, et des combinaisons de natation. Comment on réagit par rapport au plafonnement, autre plafonnement exprimé par l'écart entre les performances maximales entre hommes et femmes, qui sont stabilisées depuis environ 30 ans, et avec des comportements qui seront ceux de chercher, dans un premier temps, à repousser le plafond, avec le lot de blessures qu'il va accompagner, avec le décalage dans la précocité, en se disant, en misant sur les enfants les plus jeunes, en donnant au plus tôt ces acquisitions techniques, on peut espérer peut-être augmenter leur potentiel à l'âge adulte, et bien entendu, par le dopage. Alors dans ce cadre-là, celui de la souffrance, on va avoir toute une série de positionnements qui sont extrêmement intéressants sur le plan psychologique à étudier. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais il y a certaines présentations, au-delà d'une athlète qui, par ailleurs, elle-même avait souhaité mettre dans son contrat le titre de championne olympique à l'âge de 13 ans lorsqu'elle s'engage, et qui, secondairement, va connaître les souffrances que l'on sait. Je passerai aussi sur le côté parfois un peu sadomasochiste de certaines déclarations. Je ne suis pas certain que le bonheur de Laure Manedou soit tout à fait partagé avec celui de son entraîneur de 2008. Et la souffrance est constamment présentée, mise en avant, que ce soit Muriel Urtis, que ce soit par Justine Hénin, et qui pose elle-même la question de, finalement, jusqu'à quel point dois-je souffrir pour arriver à maintenir cette place de numéro un mondial. Et sur cette question-là, Laetitia Duguin, elle, dit « j'arrête ». 16 ans, gymnaste de haut niveau, elle est en équipe de France, elle participe à la 8e place de la France à Pékin, et il y a donc 3 semaines, nous déclare que sa santé est à privilégier après 4 interventions sur les 2 coudes, 2 sur le genou gauche. Elle dit à 16 ans « je suis une retraitée du sport de haut niveau ». J'abandonne, j'ai suffisamment souffert. Et même en dehors des sports traumatisants comme celui-là, si on écoute Loïc Perron au moment de ses vacations pendant le Vendée Globe, il nous dit quelques très rares moments autour du monde où on se fait vraiment plaisir. Ça reste extrêmement rare, la plupart du temps, on en bave, comme la plupart des autres. Donc, je ne suis pas certain que la boxe soit emblématique ni spécifique dans ce domaine. La douleur et les difficultés font partie du haut niveau, c'est ce que l'on cherche de plus en plus à repousser pour obtenir ce titre, ce gain, ce delta par rapport aux autres vivants ou par rapport à l'histoire lorsqu'on est inscrit sur une quête de record du monde. Et derrière cette exigence du haut niveau, évidemment, que ce soit pour Sandra Laura, que ce soit pour Christopher Reeve, les choses peuvent se terminer plus ou moins bien, y compris jusqu'à l'amputation de Matthias Lanzinger, jeune s'ils en sont. Alors la précocité de l'entraînement, il faut y voir les 3 composantes principales, celle de la technique, on l'a dit, celle de la puissance et celle des effets secondaires d'une certaine forme d'érosion. Développement des capacités athlétiques, elle sera celle que l'on peut mesurer sur l'augmentation de la VO2 max et la diminution avec l'âge. Elle sera celle de l'augmentation de ses performances aérobies au cours de l'adolescence, dont on voit que les filles vont à un moment donné s'interrompre aux alentours de 14-15 ans, alors que les garçons continuent 2-3 ans supplémentaires. Donc il faut tenir compte de ça sur cette progression. Et donc ça fait en quelque sorte nos limites. Et c'est par rapport à ce maximum-là que nous sommes en train d'atteindre actuellement, que l'on peut regarder sur le 100 mètres en bleu, le 400 en rouge, le 5000 en jaune et le marathon en bleu, les âges à l'acmé qui sont aux alentours de 25 ans, plus ou moins 3, définissant petit à petit ce cadre dans lequel se construit la performance physique. Et cette question même, à ce moment-là, pose la question à nouveau de cette co-ségrégation de gènes qui permettent à un moment donné à la fois d'avoir le gabarit, d'avoir la puissance physique, d'avoir le type musculaire, mais également, sans doute, puisque notre neurophysiologie est également génétique, en partie, va avoir la question de quels sont les liens entre l'espérance de vie et la condition physique, quels sont finalement, sur une expression particulière, la façon dont vont se développer avec le temps ces capacités, et est-ce que l'on a, en fait, seulement isolé, au-delà du développement économique, isolé parmi les sportifs de haut niveau, un certain nombre de ceux qui étaient les plus à même de le faire, et donc, petit à petit, ségréger de plus en plus ceux qui sont aptes à courir vite, ceux qui sont aptes à sauter haut, ceux qui sont aptes à courir longtemps. Dans les capacités techniques, je ne reviendrai pas sur l'importance de ces phases essentielles de développement neurologique pour capter au moment optimal l'ensemble de ces données, et le langage n'y fait pas exception, il y a un âge auquel on va acquérir le maximum de capacité d'utilisation des mots et des représentations derrière. Et sur les blessures, la question même des séquelles à long terme se pose actuellement, et ça a été en tout cas l'une des missions principales confiées à l'IRMES. Alors est-ce que derrière ça, il y a un risque vital à la pratique du haut niveau? Quand on reprend les seules données épidémiologiquement acceptables actuellement, elles ne portent malheureusement que sur la première moitié du XXe siècle et s'arrêtent à l'ensemble des sportifs nés dans les années 50, qui sont encore vivants, mais dont certains commencent à décéder et donc permettent de construire une réelle mesure comparative. Et la plupart de ces études nous montrent en fait chez ces sportifs une réduction de la mortalité de 30% et donc une longévité qui est en moyenne de 4 ans supérieure, y compris dans le football américain, y compris, je dis bien, dans le football américain du début du siècle. La question, bien entendu, maintenant de celle de l'élite, de la précocité, de celle du comportement actuel au début du XXIe siècle est posée, et celle-ci n'est absolument pas, ne donne absolument aucune référence dans la littérature sur ce sujet. Voilà, je voulais remercier l'ensemble des chercheurs qui ont collaboré à l'ensemble de ces travaux au sein de l'IRMES et en dehors de l'IRMES, et également vous remercier pour votre attention.
Stéphane Prétégu, Nantes. Je voulais vous poser une question sur ce que vous nous avez montré en avant-première, c'est-à-dire le dépouillage des résultats des évaluations psychologiques là, depuis le décret. Et vous posiez la question, est-ce que le sport est un facteur de protection, tout au moins sur le plan psychologique, nous montrant justement de meilleurs chiffres, on va dire, en matière de dépression, de consommation et autres. Donc j'aurais aimé avoir votre avis sur cette question que vous nous avez posée. Je vous renvoie la question.
De question en question, les résultats que l'on a pour l'instant, qui portent donc sur environ 10% sur 1500 premiers rites qui vous seront présentés en détail d'ailleurs demain par Capucine Pichard, je ne sais pas si elle est là, enfin en tout cas demain après-midi vous en aurez les détails, nous montrent que sur ces valeurs-là, on a effectivement des taux, comme je vous l'ai expliqué, qui sont inférieurs à ceux que l'on peut constater en population générale. On a des problèmes qu'on retrouve de façon générale dans la population, les problèmes de troubles du sommeil, endormissement tardif, des problèmes qui sont liés également à l'utilisation d'Internet entre minuit et 2h du matin dans la plupart des CREPS et même à l'INSEP où le couvre-feu n'est pas imposé. Et comment le serait-il ? On le trouve également sur un certain nombre de comportements prioritaire, mais dont on voit entre la consommation anecdotique, la consommation quotidienne, la consommation usuelle et l'addiction, donc avec les abus et la dépendance, montre sur le cannabis, sur l'alcool comme sur le tabac, des chiffres qui vont là encore suivre une pente qui est la pente normale sur l'ensemble des autres adolescents de leur âge en population. Donc on n'a pas du tout d'effet négatif dans la répartition en fonction de l'âge ou en fonction, et qui plus est, on voit, en particulier c'est le cas sur le tabac, un taux qui est 20 fois inférieur à celui de la consommation en population. Donc là-dessus, on va avoir des positionnements qui sont très liés à celui de la quête, qui est celle de la performance en direct, et on n'a pour l'instant pas de taux supérieur ou de sport donné, de région donnée, puisqu'on fait l'analyse régionale, vous en verrez là aussi les exemples, qui montrent de façon significative qu'il y a un risque dans tel ou dans tel groupe. Alors, on n'en est qu'au début, hein, on n'en a que 1500 sur les 15 000, on va avoir là-dessus un grand nombre de questions à soulever, mais je reviendrai quand même à ce que je vous ai dit sur la fin, c'est-à-dire que pour être capable d'encaisser le haut niveau et d'arriver jusqu'à l'élite, soit au niveau des espoirs, soit au niveau des listes SHN, il faut quand même avoir un certain nombre d'éléments extrêmement favorisants dans la vie qui font que lorsqu'on arrive même à 13 ans pour ce qui concerne la gymnastique ou à 15 ans, 16 ans plus tard pour les sports collectifs, pour arriver à ce niveau-là. On est parti déjà avec un certain nombre de bagages qui sont probablement extrêmement importants, y compris sur le plan psychologique.
C'est ce que j'allais dire. Y a-t-il des groupes témoins ?
Les groupes témoins vont être extrêmement intéressants et on les lance actuellement, et en particulier par l'analyse de la performance. On va étudier en ce qui concerne les activités scientifiques, l'ensemble des prix Nobel et l'ensemble de finalement la réalisation scientifique mondiale entre les records du monde sportif d'un côté et les prix Nobel de l'autre. On est sur des quêtes de dépassement, on est sur des besoins de compétition qui sont strictement comparables. On trouve des liens sur le plan sociétal qui sont linéaires dans la progression entre la plupart des régions du monde qui sont concernées, c'est-à-dire essentiellement l'Europe de l'Ouest, un peu l'Europe de l'Est dans une phase très brève du XXe siècle, et les États-Unis, et puis, de façon plus récente, les pays asiatiques, avec le Japon plus précoce, la Corée du Sud, et la Chine surtout. Sur cette élévation-là, on a des index qui nous montrent des liens strictement comparables, qui sont donc bien positionnés sur le développement économique. Ce n'est pas le sport. Par contre, ce qui va être important de faire au fur et à mesure de ces comparaisons-là, ça va être de regarder ce que sont les impacts du sport de haut niveau sur cette population qui est probablement, mais ce n'est qu'une hypothèse à ce stade, probablement génétiquement aidée, entre guillemets. Alors comment on fait ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir sélectionner, c'est-à-dire par le même processus de sélection qui aboutit aux équipes de France et aux équipes internationales, trouver des gens qui auraient le même bagage initialement, mais qui n'auraient pas suivi les filières du haut niveau. Si vous me trouvez la solution à ce problème, appelez-moi, je suis très preneur. Pardon ? Alors, bien entendu, sur le plan intellectuel, sur le plan, parce que ce que je vous ai dit pour les prix Nobel, on le retrouve exactement sur les palmes d'or à Cannes. Bon, bizarrement, c'est les mêmes pays qui sortent. Europe de l'Ouest, États-Unis. On s'éloigne un petit peu, on va dire, on est en train de s'intéresser à des choses qui n'ont absolument aucune mesure, aucune comparaison. Je ne suis pas si sûr que le développement d'un pays, lorsqu'il engage un certain nombre de ses pourcentages de budget dans les plus hautes instances de son gouvernement, décide de mettre à un moment donné sur le sport, ah bah tiens, on ne va peut-être pas quand même trop léser la culture, on ne va pas non plus oublier la recherche. Et là, l'ensemble de ces domaines-là bénéficie à un moment donné de ce que le développement économique nous permet. Et petit à petit, on voit là des pays qui partent en avant dans cette course-là. Clairement, les inégalités qu'on peut avoir, inégalités économiques comme inégalités sociales ou sociétales de santé entre les pays ou au sein même des pays, va être en partie liée à ce problème.
Par rapport à cette frontière acceptable-inacceptable qui se retrouve dans les deux interventions et par rapport à cette impossibilité probablement qu'on a de redistribuer les cartes sur ce qui est accepté déjà, ce qui fait partie de ce qui est institué dans le monde du sport, quelle serait finalement, parce que j'observe très naïvement et en étant très modeste, parce que moi c'est pas un domaine que je maîtrise, le domaine du sport, mais je note quand même qu'il y a une évolution dans les prises de conscience de ce que peut être la maltraitance ou l'excès ou d'une pratique intensive, d'une pratique où la performance abrase tout ce qui peut être du côté de la protection de l'enfance, des besoins de l'enfant ou des besoins élémentaires, physiologiques et psychiques, comme vous l'avez bien développé. Donc finalement, la réponse, avec ces changements dans les représentations, ces tabous qui tombent peu à peu, il se situe où ce changement? Quelle va être la réponse qu'on va pouvoir apporter à cet adolescent, à cet préadolescent de 13 ans qui dit « moi je veux être champion ». Et je suis prêt à accepter l'inacceptable. Alors, comment on fait?
Là-dessus, toutes les questions de la prévention de ces domaines-là, et ce que je voulais montrer, c'était quels étaient derrière cela les déterminants mondiaux qui entraînent cette course et qui justifient cette demande de cet enfant de 13 ans. Alors, ils sont rares, ceux qui, à 13 ans, se disent « je serai championne olympique hein. ». Néanmoins, certaines y arrivent. D'autres vont sortir très tôt des circuits parce que n'ont pas trouvé les conditions, n'ont pas les possibilités, n'ont pas eu la chance, ne subissent un certain nombre de séquences qui vont petit à petit ne pas leur permettre d'atteindre cet objectif. La question du risque qu'ils sont prêts à prendre pour arriver jusque-là, doit, à mon sens, par rapport à ce qu'on peut développer sur les autres politiques de prévention, bénéficier d'un certain nombre d'outils. D'outils de la connaissance, donc il faut qu'on continue les recherches là-dessus pour mieux comprendre, mettre en public cette connaissance, et à partir de là, tirer un certain nombre d'outils de prévention qui seront proposés une fois que, à la fois, la connaissance est diffusée, partagée et acceptée. Ce qui sera le plus difficile, non seulement dans ce domaine-là, mais dans un certain nombre d'autres d'interactions entre les activités humaines et l'environnement, où on peut développer, là encore, de façon très large. Derrière ça, l'acceptation de ces limites, comme l'acceptation de ces risques, c'est une prise de conscience individuelle qui va laisser partir un enfant qui se construit, qui rêve encore, hein, et l'entourage qui ne veut pas voir, soutient modestement, ou au contraire, va forcer. Et ça va être un des problèmes, là encore, dans les disciplines à maturité très précoce, comme la gymnastique, on le voit aussi un petit peu au tennis, sur les limitations qu'on peut avoir. Donc je pense qu'il faut avoir, en connaissance de cause, des outils qui permettent de montrer cela et les mettre à disposition. Les forcer pour dire à un moment donné, on arrête cette course, on arrête le dépassement, on arrête la progression, ça veut dire à un moment donné, on s'arrête tous. Est-ce que ça, c'est acceptable au niveau d'une société quand c'est décidé de l'intérieur? Ce sera une vaste question, y compris avec la récession économique actuelle.
Bien. Écoutez, moi, je tiens à remercier les deux intervenants et à remercier tout le monde.